Un jeune homme est assis dans son salon, en train de gribouiller quelque chose sur un papier. Soudain, il lève la tête, finit son verre de ce qui semble être de l'eau, puis se lève. Il parcourt son salon, semblant être à la recherche de quelque chose, sans toutefois le trouver. Il fouille désespérément un peu partout, encore et encore, jusqu'à ce qu'il revienne s'asseoir avec une petite boîte cabossée. Il l'ouvre. Celle-ci contient des cassettes. Oui, de vieilles cassettes audio. Il les regarde une à une, puis en choisit une avec soin. Elle l'insère dans un vieux magnétophone posé à côté de lui.
Bien. Bonsoir mon cher docteur.
Bonsoir mon cher.
Alors dites-moi pour nouveau petit colloque, notre nouveau petit rendez-vous, je crois que vous vouliez parler d'une grande part de votre enfance.
Nous avons décidé donc à ce moment-ci de parler des bonbons acidulés, mais pas que des bonbons acidulés. Dans ce symposium-ci, nous allons vous parler du monde, de l'arcade, vu par les yeux d'un joueur à travers le temps et l'espace.
Très bien. À travers le temps et l'espace, donc on va remonter dans ce temps et dans cet espace, à quand vous étiez petit.
Oui, fais pas attention aux canettes par terre, c'est normal.
Et donc, la première petite question, je crois que vous avez déjà des anecdotes par rapport à ce temps-là. Qu'est-ce qui vous revient en tête justement quand on évoque l'arcade ?
Quand on évoque l'arcade, déjà, il faut se dire qu'il n'y avait pas autant d'arcades dans les arcades que prévu. D'un point de vue purement architectural, la plupart de ces endroits étaient généralement des cafés qui avaient été remis au goût du jour par ça. La plupart des cafés sont, à un moment de leur époque, étaient. Ce n'était pas une très grande phrase, mais cependant, ils ont été des arcades. Le principal truc de l'arcade, il faut déjà se dire que c'est un endroit où on paye pour jouer aux jeux vidéo. Donc, ça, il y avait déjà toujours cette connotation du jeu d'argent. Que l'on reconnaît toujours d'ailleurs. Tu vois encore des petits plots où tu peux gagner des objets.
Par exemple, une espèce de petite borne dans laquelle on glisse une petite pièce et on a une centaine de jeux, des petites bandes tactiles souvent.
Voilà, les bandes tactiles, c'est une apparition qui est finalement un peu ce qui a fini par tuer l'arcade, à mon sens. Tu vois, les photo booths et les trucs comme ça, c'est un peu la fin de l'arcade. Pour les gens qui n'étaient pas là à l'époque, je vais faire une espèce de petit tableau mental qui va durer à peu près 30 secondes. Imaginez un endroit qui, bizarrement, est en fumée, parce qu'à l'époque, on pouvait fumer dans les salles d'arcade. C'était pas particulièrement sain, et je pense que ça n'a pas fait du bien à une génération comme la mienne. La taxinomie de la chose, c'est généralement qu'il y avait une dizaine de bornes. La plupart étaient de ce qu'on pourrait appeler des systèmes modulables. Les autres étaient ce qu'on pouvait appeler les modèles d'attraction, c'est-à-dire les grosses machines qui coûtent peut-être même plus d'une pièce quand tu dois y jouer. Pensons à, je ne sais pas moi, les machines qui étaient donc à tir, donc avec un système photoluminique, celles qui étaient au contraire montées sur vérin hydraulique, il y en avait d'autres qui avaient des systèmes hydroponiques. Il y a bien entendu pas mal de choses à faire et à manger dans le monde de l'arcade, surtout à une certaine époque.
Faut quand même préciser que pour justement dépasser le simple jeu à la maison, il fallait proposer quelque chose d'un peu plus clinquant pour la somme qu'on allait verser. Donc par exemple, une extension assez grandiloquente à l'habituel contrôleur de jeu. Par exemple, pour surfer carrément une espèce de planche sur laquelle on va se pencher, on va tourner un peu dans tous les sens.
Il est évident que l'arcade est un produit de spectacle aussi. Et que le jeu doit avoir l'air amusant pour que les gens se disent « j'ai vraiment envie de dépenser de l'argent dedans ».
Et finalement, au fil du temps, je pense qu'on note quand même une espèce de ping-pong, d'aller-retour entre l'arcade et la maison à l'aide des accessoires et à l'aide de, justement, tu parlais des bandes d'arcade qui avaient une gestion photolumique. On a eu assez rapidement, notamment sur NES avec, je crois, le scope, c'est ça le...
Sur NES, ce serait le zapper. Sur Super NES, c'était le scope.
C'était le super scope, voilà. D'avoir quand même assez rapidement ces améliorations-là qui venaient se greffer à la console de salon.
Exactement. Alors, au moment où l'arcade a perdu son avantage de la pure mécanique vidéoludique, c'est-à-dire l'avantage en termes de hardware, il est certain qu'à une époque où on allait tout simplement en arcade voir la technologie du futur. Quand Capcom a sorti la CPS-1, qui est la machine qui a permis de faire sortir Final Fight, Street Fighter 2 et toute la série de ces jeux-là, on était vraiment en face du futur. On s'est dit, la prochaine génération de consoles a besoin de taper là. On était limité sur 8 bits. à la maison.
Ouais.
Suite à d'anecdotes amusantes, hein, qu'on connaît assez bien, comme la NES devait sortir à la base avec un processeur 16 bits, mais oh mon dieu, c'est coûteux, Nintendo, ils ne sont pas fous, donc ils ont fait des économies. Des plaisanteries de ce genre-là. Et évidemment, à partir de ce moment-là, quand l'arcade a perdu la course à la guerre purement mécanique, ils se sont mis en avant avec des accessoires, lol.
D'ailleurs, petite parenthèse, ça titille un peu mon cerveau de jeune.
Ça titille tes neurones.
Mais ça titille mes neurones, exactement. Je suis en train de penser à un parallèle entre l'arcade de l'époque où on faisait la file devant les machines pour tester la nouvelle sensation et aujourd'hui de manière
ce qui arrivait pour de vrai.
Ce qui arrivait pour de, bah évidemment, mais et aussi bon, ça concerne beaucoup plus les journalistes et les professionnels, mais les gens qui font la file lors de grands messes du jeu vidéo tels que l'E3, tels que la Games Convention, la Japan au Japon, c'est la...
La TGS.
Le TGS, exactement, le Tokyo Game Show. Il y a aussi cette idée de faire la file, d'être à plusieurs, de se mettre devant
un écran. Le très grand somnifère.
Voilà, en quelque sorte, mais l'idée est assez la même, c'est-à-dire qu'on va vouloir tester la nouvelle sensation, on a versé une somme d'argent légèrement supérieure à la normale pour pouvoir tester cette nouvelle sensation. Dans un cas, c'était plus ponctuel, dans l'autre, c'est une énorme somme pour pouvoir un peu tester un peu de tout, mais finalement, on se retrouve dans le même rêve, c'est à peu près le même public qui s'y
rend. C'est le même rêve, c'est le même public et c'est la même démarche. L'idée, évidemment, quand on présente un jeu 15 minutes à des journaleux qui ont fait des centaines de kilomètres pour dépenser des centaines d'euros pour être là sur place et qu'ils y jouent 5 minutes, on essaye qu'ils aient l'impression que l'expérience qu'ils ont vécue est super efficace.
Ouais.
Il y a quelque chose aussi de l'arcade dans le design des démos de nos jours.
C'est vrai. Le temps restant d'une démo, le nombre d'essais d'une démo aussi, on le voit, et c'est une régression, mais notamment sur 3DS, quand tu télécharges aujourd'hui une démo, on te dit que tu as 30 essais.
Voilà, mais c'est bizarre cette notion de crédit, et cette notion de crédit, c'est d'ailleurs une qu'on voit dans autre chose de nos jours. Alors, pour expliquer ça aux jeunes, à une époque, les crédits, donc c'était pas une question simplement de « je vais hypothéquer mon futur pour gagner mon avenir », c'était surtout une question de « avec X francs, combien de fois peut-on jouer ?» X franc, évidemment, le frère de XOR. Il est vachement plus franc.
Il est vachement plus franc, il a une grande, grande valeur. Enfin, X franc, c'est un super héros de notre enfance, qui est aujourd'hui un peu en déclin, un peu en déficit, mais on espère évidemment que X franc renaîtra peut-être sous le nom de X euro.
Voilà.
Nouvelles aventures.
Dans un nouvel épisode des France 5, disponible cette semaine.
Exactement, le 5 mai, il paraît, un truc comme ça.
Paraît-il. Tu sais que ça va faire à peu près depuis l'époque où je jouais à l'arcade que j'attends le retour des France 5.
Et ben voilà, ils seront.
Comme quoi les choses arrivent. Sur le DLC des machines de toujours.
Et on reparle de l'arcade comme quoi tout est cyclique dans la vie.
Et 6 clics, ça fait beaucoup de clics d'un coup.
C'est
et
vrai.
Donc, l'arcade, on en a parlé. Évidemment, on peut dire que certains jeux iOS qu'on voit maintenant sont certainement les enfants des petits-enfants des jeux de l'époque. On peut penser, par exemple, à, je ne sais pas, moi, Jetpack Joyride.
Oui.
Ou alors l'application Capcom pour jouer à des jeux d'arcade de manière pérave sur ces machines iOS.
Mais d'ailleurs, en général, tout le système de tarification sur ces jeux-là, il fait penser. C'est-à-dire que l'accès en lui-même au jeu est situé quelque part entre 1 et 2 euros.
Exactement.
Et surtout les améliorations en elles-mêmes. Donc finalement, assez similairement au fait de rajouter une pièce pour avoir une vie supplémentaire, une boule de flipper supplémentaire, etc., etc.
Aux
espèces de mini DLC qu'on a dans ces jeux-là. Donc le modèle économique est bon an mal an le même.
Le modèle économique est bon an mal an le même, même si sans doute que la répartition des gains ne se fait pas de la même manière. J'ai souvenir qu'à une époque, tu louais ou tu achetais une arcade. Sous-entendu, une fois que tu l'avais acheté, t'essayais de l'amortir le plus longtemps possible, d'où justement, et je sais que c'est une discussion qu'on va avoir et qui est finalement concentrique avec des cercles cycliques qui se rentrent les uns dans les autres, mais il y a aussi donc forcément l'idée de la rentabilité de la machine et donc de ces machines qui ont finalement survécu longtemps et qui étaient un peu des formats d'exception. On parlait du Naomi, ou on n'a pas parlé du Naomi, mais on devrait parler à un moment du Naomi, on peut parler du CPS, on peut parler de la Neo Geo AES.
Alors justement, qu'est-ce qui sépare la tournée de la Cité 3, qu'est-ce qui distingue ces différents formats d'arcade?
Disons que c'est déjà une démarche du point de vue de l'architecture. On a une architecture qui est évolutive, dans certaines manières. Le CPS est devenu le CPS2, qui utilisait à peu près la même machine, mais avec beaucoup plus de RAM. Neo Geo a proposé un standard à une époque, qui était un standard qui était très puissant, qui était basé d'ailleurs de manière assez amusante sur la même architecture que celle de Capcom, hein, parce que à l'époque, tu devais mettre un Zilog Z68000 dans ta machine où tu n'avais rien. C'est d'ailleurs le processeur qui, comme tu le sais très bien, vu qu'on en a déjà parlé ailleurs, a fini par orner ben, la Mega Drive, dans c'est une version bâtarde. Et la Naomi, l'AES et le CPS ont eu la particularité d'avoir une durée dans le temps qui était souvent appuyée sur leur capacité à faire survivre leur portage directement sur la console du moment. Dans le cas de Sega, la leur, la Dreamcast, qui était finalement à peu près la même technologie mais en plus cheap, c'est-à-dire avec moins de RAM, avec un disque. De manière amusante, effectivement, le Naomi fonctionnait au disque, mais le disque était recopié dans de la RAM une fois pour toutes. Lors du boot, de manière à éviter que le lecteur GD-ROM soit la pièce qui fait exploser la machine.
Donc en gros, jusqu'à ce qu'on change de jeu, le jeu ne tournait qu'en circuit fermé dans la RAM.
N'avait tourné qu'une seule fois surtout. Ce qui est assez fou. De plus, quand on remarque donc ces similitudes dans ces machines, on se dit que toutes ces machines étaient protégées par des systèmes qui sont finalement comme les systèmes anti-piratage que l'on voit à notre époque.
C'est vrai.
Le système JAMA, qui est une espèce de cartouche qui contient le PCB en ce qui concerne la CPS1 de Capcom, était même ainsi prévu avec une pile qui fait que, de manière obsolescente, toutes les 5 ans, tu devais changer la pile, ou ta machine explosait.
C'est assez gênant, effectivement.
Bah, tu devais carrément renvoyer le PCB au Japon, il te changeait la pile, il te le renvoyait. Donc, pendant ce temps-là, ta machine était out pendant facilement un mois et demi.
Donc t'avais intérêt à avoir plusieurs machines pour pouvoir gérer un peu tes stocks et renvoyer une machine pendant que t'avais l'autre en réserve, j'imagine.
Et c'est pour ça que généralement, les gens, ils avaient une flottille de CPS1, plus 2-3 trucs. Ou une flottille d'AES, plus 2-3 trucs.
C'est assez malin, effectivement.
C'est un système assez totalitaire, mais il faut aussi se dire qu'à cette époque-là, bah, tous ces développeurs de jeux qui semblent maintenant être un peu moins francs sur le domaine du multiformat étaient à l'époque producteurs de hardware et donc maîtrisaient leur production.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus malin. On se souvient d'ailleurs, entre parenthèses, de pour prendre un exemple, de Nintendo qui produisait son propre hardware. On était même arrivé au point de distribuer une borne d'arcade avec, je crois, 10 jeux qui sont ensuite sortis sur la NES.
Alors c'était dans l'autre sens, mais on parle de la NES Advantage. La NES Advantage, c'était une NES avec un timer et un multi-sélecteur pour la cassette. C'était quand même, il faut se dire, à une époque que l'arcade était tellement puissante que Nintendo pouvait pas l'ignorer.
Alors, oui, c'est vrai, mais l'idée derrière ça, et c'était là où je voulais en venir, mais je m'étais...
On prend le long chemin, c'est normal, quand il fait tellement beau, t'entends les oiseaux qui gazouillent, on a le temps de faire les choses bien.
Oui, mais tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'était surtout que, l'intérêt pour l'arcade se voyait dans le fait que la console de salon était utilisée pour faire une borne d'arcade. On avait plus ou moins la même puissance.
Évidemment.
Et voilà, l'idée était quand même qu'il fallait y être. Déjà coûte que coûte, et que ce hardware-là pouvait très bien fonctionner. Donc un hardware que Nintendo avait développé, un hardware propriétaire.
Nintendo est un peu le contre-exemple. Ils ont toujours eu l'habitude d'adapter, d'un point de vue purement arcade, quelques-uns des titres qui se prêtaient le mieux à ça de leur catalogue. Donc quand on pense arcade et Nintendo, on pense à des versions spéciales de Balloon Fight, on pense à des versions spéciales d'Ice Climber, on pense à des versions spéciales des jeux qui sont déjà sortis dans le commerce. Et à l'époque, la NES n'était pas ridicule par rapport à ce qui était possible dans les Game Center.
Oui.
Ce qui est assez bizarre quand on y réfléchit, parce que quand on voit la technologie de la NES, la seule chose qu'elle a, c'est un incroyable système de scrolling. Eh ben, ça fait la différence.
Effectivement, et oui, la possibilité de pouvoir changer aussi, enfin simplement d'avoir une machine beaucoup moins restrictive en termes de changement de jeu et de
voilà, quand maintenant même... la Famicom, faut pas l'oublier, c'est la machine avec les contrôleurs soudés dedans, hein, donc c'était quand même aussi bien vu d'un point de vue simplement des pièces mobiles. C'est vrai. Très très peu de pièces mobiles dans une Famicom.
Absolument, absolument. Je te propose de voir un petit peu. Donc, on a eu toute cette époque, on va dire, d'âge d'or de l'arcade.
Il y a quand même d'ailleurs, il faudra un jour parler de l'âge d'or de l'arcade.
Il y a eu. Donc, allons-y, parlons-en de cette période, justement.
On a déjà parlé dans le vidéoludisme, mais comme on a vu l'apparition de l'arcade en Amérique. C'était le premier modèle économique auquel les Américains ont pensé afin de rendre rentable leurs titres. cette époque, il domine la chose avec Atari, avec Midway, avec Bally, qui était à l'époque encore producteur de jeux vidéo et pas seulement producteur de... Comment ça s'appelle? De flipper.
Bah oui, mais c'est vrai. Finalement, la logique derrière ça, elle est très très simple. C'est que pour faire connaître le jeu vidéo, on va le mettre dans l'espace public.
On va le mettre dans l'espace public et espérer qu'il soit assez fort que pour se défendre sur ses petits pieds. Et vu que la nouveauté est toujours attirante, les gens se sont pliés à l'exercice du jeu.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, on a donc vu la progression petit à petit à la fin des années 70 vers le début des années 80 vers un marché où les Japonais ont commencé à non seulement produire les pièces qu'ils avaient étudiées à l'étranger, mais à mettre les jeux qui vont dessus. C'est ce dont on a parlé jusqu'ici. Et l'évolution petit à petit de ce format a fait que l'arcade est devenu un système totalement insulaire qui ne fonctionne finalement qu'au Japon. Beaucoup des arcades qu'il y a par chez toi sont sans doute fermées.
C'est, bah, franchement, si on parle vraiment par chez moi...
Quelle est la situation en Suisse avec l'arcade?
Franchement, en Suisse, il n'y a quasi rien. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques associations, notamment qui défendent alors, un certain type d'arcade, comme par exemple le jeu de danse, qui existent et qui ont des bornes. Vraiment, à titre associatif, on va jouer ensemble, on va faire du ranking, etc. Mais c'est quelques exceptions. Franchement, à moins d'un ou deux magasins de jeux vidéo vraiment spécialisés, notamment à Genève, il y a franchement pas grand-chose. Enfin, peut-être au détour d'un café, en ayant un petit peu de chance, de manière très anecdotique, mais franchement, l'arcade en Suisse, ça n'existe plus. Enfin, voilà,
un mix entre la publicité, le spectaculaire et quelques vieilles traditions locales, quoi.
On est proche de ça. Il y a vraiment plus que soit l'aspect pièce de collection, soit l'aspect, on est des fans de tel type de jeu, on est dans telle communauté, on est dans telle convention, et on va t'apporter une console d'arcade. Je pense à Japan Impact, je pense à Polymanga, à Lausanne, les deux à Lausanne d'ailleurs, l'un le PFL et l'autre je ne sais plus où. Bref, l'idée est globalement d'avoir le jeu d'arcade visé à des spécialistes du jeu vidéo, des gens qui vont pour de l'arcade, parce qu'ils veulent de l'arcade, parce qu'ils veulent de la précision de l'arcade ou le matériel de l'arcade, mais on n'a pas cette, on n'a plus du tout cette dimension publique de l'arcade avec allez, viens, Georges, on sort du boulot et on se fait une petite partie. Clairement pas.
C'est triste.
C'est très triste.
Parce qu'évidemment, il y a aussi un aspect un peu philosophique de l'arcade. C'est que l'arcade, c'est non seulement... Quand on avait dans la tête les trucs des années 80 avec le Terminator et tout ça, c'était un peu ça qu'on vivait en arcade. Je me souviendrai toujours des arcades de mon enfance, et les arcades de mon enfance étaient des choses hautement colorées avec le décor qui était réellement travaillé pour la chose. T'avais souvent des petites approximations avec des dessins faits par des artistes locaux sur les murs avec ça, c'est un Pac-Man, voyez donc, il a des jambes, ah bon. Tu avais aussi un incroyable décor. Je me souviens d'un truc qui s'appelait le choral, qui était un truc qui bougeait avec une foire. Donc ça allait de ville en ville, et la plaisanterie de la chose, c'est qu'à l'intérieur c'était comme un espèce de saloon ou une espèce de saloon. Et tu pouvais jouer à des trucs comme Sunset Riders. Et ben là, tu te sentais un peu à la maison. Parce qu'il y avait tout ce côté-là du oui, et il y avait une certaine synergie entre le décor et ce que tu pouvais faire avec les jeux qui étaient dedans.
Alors, on amorce justement la disparition de l'arcade à partir d'une certaine époque, en tout cas les fermetures en masse. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà à quand est-ce que cette époque se raccroche et,
oui, sans doute.
Comment on la distinguait exactement? Pourquoi finalement on a eu ces fermetures en masse?
Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours eu le même problème du tournant de la 3D dans le jeu vidéo. À la fin des années 90, les Américains, les Japonais se sont dit « nous allons faire du polygone ». Or, bizarrement, il n'y avait que 3 ou 4 personnes sur cette planète qui avaient une idée de jeu qui allait en 3D, qui était purement 3D. C'était Shigeru Miyamoto dans un côté, puis après de l'autre côté, t'avais certainement quelqu'un d'autre et son frère. Logiquement. Et la progression donc du jeu vidéo en arcade a fait que sa disparition était nécessaire, car le coût technologique de faire rentrer de la machine de pointe a été problématique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tout d'un coup le système va à l'envers. Ce sont les machines d'arcade qui se mettent sur le pas des consoles de salon.
C'est vrai.
Namco a commencé à travailler sur une machine qui était très très proche de la PSX. C'est à ce moment-là qu'ils en ont sorti une version surboostée qui aura permis de faire Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin 1, 2, 3.
Ce qui est
le
très
4
amusant.
Était déjà sur PS2.
Ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que pour, je crois, notamment le jeu de course Ridge Racer, l'idée était aussi de sortir sur PSX, du coup, un pad particulier, même plusieurs pads. Enfin, il y avait toute une espèce de, comment dire, de bataille pour pouvoir essayer de faire fonctionner les deux écosystèmes ensemble avec les comment dire, différents contrôleurs, qui était assez dingue. Je crois que c'était un pad qui se tournait.
Ça s'appelait le Neckcon.
Voilà. Et il y avait vraiment une volonté de, comment dire, d'essayer de synchroniser les deux marchés, de synchroniser les deux plateformes autour d'un
d'une spécificité propre à chacune. Alors je ne sais pas, je ne vais pas aller mettre ma main à couper ou quoi au caisse, mais j'ai pas grand souvenir qu'il y ait eu des centaines de sorties de Ridge Racer particulières. Je pense que Sony s'était payé très clairement la grosse exclusivité sur la série pendant un temps. Il faudrait vérifier.
Ouais, effectivement.
Pendant ce temps, nous avons demandé à nos chercheurs qui sont sous-payés et qui sont là pour faire les photocopies de nous apporter du café pendant que nous attendons la confirmation de l'information.
Exactement. Pour l'heure, en tout cas, ce qu'on va se demander, il y a eu donc cette synchronisation-là. Comment dire ? Ce qu'il faut absolument évoquer quand même, parce que c'est un point
oui.
qu'on va nous attendre au tournant, c'est quand même l'arrivée de la Neo Geo.
L'arrivée de la Neo Geo. Alors, revenons un petit peu en arrière. Nous en étions donc, avait-on dit, au début des années 90.
Oui.
Le début des années 90 est donc l'époque de l'arcade reine. Dans les machines qu'on a chez soi, on avait des machines 16 bits, certes, mais des machines 16 bits qui étaient produites avec un impact et une idée de modicité. Tu peux pas mettre autant de silicium dans une machine qui coûte $149 que tu peux dans une machine qui en coûte 30 000.
Effectivement.
Une question de grande résolution sur les écrans. Les écrans qui étaient utilisés sur les arcades étaient d'une solidité sans faille. De même pour le produit qui était tout simplement entre tes mains. Je veux dire, un stick d'arcade, et les gens en sont encore très fiers aujourd'hui, c'est une solidité de construction que tu vois plus tous les jours. Je veux dire, quelqu'un doit pouvoir jouer dessus 24 heures par jour de manière violente pendant quelques années.
Ah oui, et puis voilà, même ça chauffe. Hein, c'est... Oui, non,
c'est... Ça chauffe, c'est difficile. Les gens étaient beaucoup plus violents avec leurs machines d'arcade qu'ils ne le sont avec leurs machines de chez eux. Et tout d'un coup, vient sur ce marché Neo Geo. Alors, Neo Geo, c'est une forme de format d'arcade qui est produit par SNK. SNK, tu t'en souviens, c'est une machine qui a. C'est une compagnie plutôt qui s'est survécu non seulement en proposant des machines, mais en proposant des jeux, qui à une époque était simplement éditeur sur NES. Je veux dire, Ikari Warriors, Ikari Warriors 2, des jeux comme ça, c'est le début de SNK dans le monde de la console. Et ils se disent, face à tout ce qu'on peut faire de manière simple sur ces petites 8 bits, on va faire une machine 16 bits qui a quelque chose d'assez incroyable. Elle a, à l'époque, on parlait de 330 mégas de mémoire.
Wow.
Ce qui,
pour l'époque,
hein, voilà, tu divises le chiffre par 8, t'as évidemment le poids normal, mais ça fait déjà quand même des grosses, grosses barrettes de ROM. Qui ont d'ailleurs évidemment poussé le point de vue technologique dans ce côté-là. Hein. On va augmenter toujours la capacité de stockage dans les machines Neo Geo. C'est pour ça que vers quelques années plus tard, ils se sont retrouvés avec des machines qui avaient littéralement 512 MO, des vrais MO dans ce cas-ci dans la cartouche et qui avaient donc besoin de tant de place. C'est pour ça qu'elles coûtent 900 euros, hein, tu vois, les cartouches Neo Geo. C'est parce qu'il y a des trucs dedans. Tu payes pour beaucoup de magie. Et donc, SNK, ils ont eu un très petit moment où ils ont eu la folle idée de faire non seulement la guerre en arcade, à l'époque l'arcade était un produit totalement compétitif, on pouvait être riche en ne faisant que de l'arcade, comme ils ont pu le démontrer, et ils ont essayé, pendant ce temps-là, où il y a eu une bulle spéculative qui fait que l'arcade a très très bien marché au Japon, a très très bien marché en Europe, quelques temps, ils en ont profité pour utiliser la même formule et essayer de l'appliquer à la maison. Ce qui nous donne la théorie de la Neo Geo, la Rolls-Royce des consoles, parce qu'en fait, c'est une arcade.
D'accord.
C'était pas très intéressant, mais ça méritait d'être dit.
Si, c'est quand même un point important de cette histoire-là. Il fallait l'évoquer tout de même, histoire d'être relativement exhaustif.
Tu es en train de chercher le mot et tu l'as trouvé, c'est fort bien.
D'un point de vue plutôt contemporain, faudrait quand même qu'on évoque, il y a quand même un retour au Japon, j'ai pas envie de dire de l'arcade, parce qu'il a toujours été plus ou moins présent, mais en tout cas...
Il existe encore,
et comment dire, il y a des machines qui s'apparentent plus ou moins à de l'arcade, qui n'ont pas exactement la même fonction, mais il faut quand même qu'on parle du Polycula.
Alors, l'idée du Game Center japonais, c'est qu'on va essayer de se débrouiller pour que les gens rentrent dedans, logiquement. Et les femmes, figure-toi, et les petits-enfants, aiment aussi dépenser de l'argent.
Oui, jusque-là.
Donc, idée très simple, on va changer l'aspect compétitif de l'arcade pour la transformer en boîte à meux glorifiée et payante. T'as d'un côté ça, où t'as le pulikula, c'est-à-dire en japonais ça veut dire purikura, ce qui ressemble un petit peu à pellicule. C'est évidemment la... J'ai totalement oublié la manière dont on appelle le processus qui transforme les mots gaijin en mots japonais, mais cependant, admettons que ce soit quelque chose comme la romanisation, non, ça c'est quand t'écris du japonais en français. Enfin bon. Donc, la pulikula, c'est genre tu mets 100 yens dedans et on te tire un paquet de stickers avec quelques options que tu choisis toi-même. Ce sont en fait des bornes à écran tactile. Là où nous, en Europe, on a préféré finalement des jeux tactiles du genre Morpion, Scrabble, Puissance 4 et tout ci, tout ça. Chez eux, on va plus pour la performance de l'imprimante et ben, on va aussi créer quelques technologies. Je sais pas si t'as vu ça, mais à une époque, ils ont même fait des machines Avatar.
C'est vrai. Non, mais l'idée, et on l'a vu aussi, ça s'est arrivé plus ou moins quand même chez nous, les cabines à appareils photo, dans les, notamment proches des supermarchés et des grands centres commerciaux, qui ont en fait l'idée de pouvoir te rajouter à une image, de pouvoir rajouter ton visage, ton corps.
Il te met à côté de Johnny, voilà.
Par exemple, et ceux-ci, voilà, ces cabines-là sont souvent mis à jour avec un software un peu différent pour des photos différentes et on change un peu le. Comment dire, les images qu'il y a sur le rebord, voilà, exactement. Mais l'idée est sensiblement la même.
Précisément. Et admettons-le, je veux dire, c'est toujours amusant de voir quelqu'un qui, sur sa carte d'identité, a sa tronche en Super Saiyan. Même si c'est de plus en plus rare, parce qu'évidemment, la loi est en train de rattraper ces petites machines.
Et c'est vrai.
Mais on parle de l'arcade, on parle de ceci, on parle de cela. Il faudrait quand même, et je pense qu'il faut lancer le mot, c'est une full body experience. Sega parlait de ça à l'époque par l'entremise de Yu Suzuki, qui n'est quand même pas le dernier crétin venu.
C'est vrai.
C'est bien entendu quelqu'un de parfaitement intelligent et pas juste un gros crétin, contrairement à ce que je viens de dire en faisant une phrase qui était assez malhabile. Mais cependant, c'est un type, il a donc eu l'idée qu'on allait mettre des vérins hydrauliques dans ses machines. Tout commence avec Hang On, le jeu de. Tu vois, tu es un motocycliste, tu dois aller fort vite. Où tu pouvais tout d'un coup te pencher dans les virages. Et ce penchement, qui était le tien, dans les virages, diriger ton petit personnage qui avait donc nécessairement la possibilité de se serrer à mort dans les virages, logiquement. Tu étais toi-même en train de le faire. Ça nous donne aussi Space Harrier, ça nous donne aussi Outrun. Outrun qui était sur vérin à l'époque. Aussi improbable ça puisse paraître, parce que tu ne prends absolument pas de déclivité dans le jeu. Je veux dire, un tout petit peu sur les côtés, ben, tu la sentais. Il y avait aussi le simili Top Gun de chez Sega, qui était charmant, dont le nom m'échappe, Lock-On.
Lock-On
2, Afterburner, tous ces jeux-là. Bref, le monde de l'arcade, c'est un monde qui s'est toujours vécu sur une grande avancée technologique qu'elle conserve de nos jours, avec finalement le marché de l'arcade, par exemple à Bruxelles. Ils ont ouvert une nouvelle arcade, dont on va dire le nom maintenant, parce qu'autant leur faire de la publicité, il s'appelle eLive Arena à Bruxelles.
D'accord.
Et c'est un endroit purement compétitif. Ils ont quelque chose comme 16 machines qui sont linkées. Il peut faire des tournois, il peut faire des tournois de jeux de baston, ils ont la possibilité de changer les jeux. C'est un peu le meilleur des deux temps. Tu as encore le côté je vais aller me battre contre des inconnus, et tu as encore le côté de je vais me faire surclasser par des gens qui sont là à demeure, en somme, qui sont incroyablement talentueux. Mais c'est quand même pour dire qu'il y a encore un monde de l'arcade dans le but de qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se débarrasser de la latence de l'internet, qui est encore un problème pour les jeux de baston de nos jours.
C'est vrai que c'est une bonne idée, ça reste un usage assez particulier. Et on revient sur cet usage plus ou moins associatif ou moins compétitif de la question d'on va utiliser des bornes d'arcade pour jouer ensemble entre connaisseurs. Et finalement,
oui, et surtout que maintenant il y a des gens qui font l'effort de les remettre en état. C'est pas seulement une question d'associatif dans le sens de les gens se retrouvent à un seul endroit, c'est aussi un endroit de. Il y a des sociétés de gens comme Retroludix en Belgique qui retapent des machines. Si on organise des systèmes et des événements avec eux, ils sont prêts à se déplacer contre cachet, tout simplement pour amour de partager cette expérience de la machine d'arcade.
Très bien, écoute.
Parce que quand même, empoigner près de 60 kilos de métal qui sent. D'ailleurs, il y a une odeur d'arcade. C'est pas seulement la remugle des gens qui sont dedans, c'est aussi l'air hautement chargé en ions, disons. Je ne sais jamais faire la transition entre les deux, mais il y a une petite côté. L'ambiance d'une arcade est électrique, tout simplement parce que son air est super chargé en électricité statique, de un. De deux, tu dois quand même empoigner de la machine, tu te bats avec la machine, c'est un incroyable chose.
Et quand
tu
la vois, machine,
tu secoues un tout petit peu, parce que c'est quand même friable somme toute, et les gens n'aiment pas ça, mais il y a quand même ce côté aussi de la forme de la borne d'arcade qui est une espèce de stèle venue de l'espace que quand t'es petit, bah, tu la vois, elle est gigantesque. Je veux dire, c'est plus qu'un objet, c'est presque un monument. Un monument fait aux jeux vidéo.
Avec cet énorme écran qui est plus ou moins considérable comme une tête. Effectivement, il y a
tout. Qui faisait déjà 30 kilos tout seul, t'imagines, t'es là. Mmh. Oh oh. Mmh. Cathodique en plus.
C'est vrai. Souvent 4 tiers d'ailleurs.
La plupart du temps, il faut aussi dire qu'il y a des machines de jeux qui étaient assez incroyables pour proposer, déjà à l'époque, du multiscreen qui était là pour émuler l'effet d'un écran 16/9.
Oui, ou même carrément arriver sur trois écrans, pas pour faire du 16/9, mais simplement pour essayer de couvrir trois parties particulières de ta vue. Donc, y a vraiment
C'était le cas, je crois, dans Darius, où tu étais naturellement pris en sandwich par tout ce qu'il y avait devant toi, tout ce qu'il y avait derrière toi. C'était absolument homérique, c'était un combat de tous les instants contre l'ennemi venu d'outre-espace.
Ouais, effectivement. Donc c'était quand même assez puissant comme vue et comme implication du joueur dans le jeu. On va peut-être évoquer un dernier point ensemble. Il y a plus ou moins un retour de l'arcade, on l'a déjà évoqué, donc sur mobile avec ce modèle tarifaire et ces jeux qui finalement rappellent cette grande époque, mais aussi peut-être, en tout cas toi, tu trouves qu'il y a un retour en salle quand même de l'arcade, un avenir quelque part.
Il me semble que quand les grandes compagnies japonaises auront trouvé un moyen de valoriser leur catalogue, il y aura certainement un moment ou un autre où ils se mettront, comme Namco a pu commencer à le faire ces 20 dernières années, à retaper, pas nécessairement des machines à l'identique, mais de proposer à des collectionneurs de se procurer la machine qu'ils avaient ou qu'ils escomptaient avoir à l'époque où ils étaient jeunes. Namco fait ça, tu peux acheter chez eux les tables, tu peux t'acheter un Space Invaders pour ton salon, ça coûte très cher, mais c'est possible. Et je pense que dans le futur, une solution tarifaire où les gens pourront jouer à 350-500 jeux d'une époque standardisée autour d'un style de configuration du stick avec X boutons, je pense que le futur, c'est ça. Tu pourras probablement acheter ou louer une arcade chez toi.
Très bien.
Tout en disant qu'il y a aussi des gens, comme on le sait, qui font maintenant des systèmes MAME qui sont parfaitement acceptables, que tu peux avoir chez toi avec.
C'est vrai.
Une petite question sur la légalité, mais c'est un peu toujours la question du jeu vidéo. Hein.
Oui, aussi une question d'ailleurs sur le prix des composants, et sur le. Ça reste quand même. Ça reste quand même un bel objet et un gros objet, mais c'est envisageable à mon avis.
Ils ont tué la question du coût du composant avec l'idée de faire tourner tout sur un PC, et c'est un peu le futur, je veux dire, maintenant, les consoles, les formats, les standards japonais d'arcade sont très très proches de ce qui se fait du point de vue de la pure machine de salon. Je veux dire, le Lindbergh de Sega qui fait tourner Virtua Fighter 4, c'est deux grosses cartes graphiques sur un processeur Intel.
Oui, donc
il n'y a pas de honte.
Il y a moyen de l'émuler parfaitement chez soi avec un.
Bah oui, par exemple, la Taito Type X qui fait tourner Street Fighter 4, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est genre une ATI d'il y a 4 ans avec un processeur avec 2,2 GHz. C'est incroyable. C'est
totalement raisonnable en fait.
C'est un laptop.
Effectivement. Ah bah écoute, merci pour cette
perspective
sur l'arcade. Merci de m'avoir reçu. On se retrouve, je pense, très très prochainement pour un autre de nos passionnants rendez-vous d'ici là.
Il sera question de choucroute.
C'est vrai, c'est vrai. Je te souhaite une très très bonne soirée. Ciao.
Toi aussi.